chacun d'entre nous, on est doté de ressources exceptionnelles. On est tous dotés de ressources émotionnelles, intellectuelles, physiques, spirituelles, et que ça s'appelle nos forces, ça s'appelle nos moteurs de vie. Et si l'espace, si l'endroit autorise au développement de ça, autorise à ce que j'utilise ça, en général, il se passe de belles choses.
Bienvenue dans le podcast Travailler autrement, dédié au partage d'expériences d'hommes et de femmes qui ont montré que tout était possible. Découvrez des parcours atypiques, inspirants, indispensables pour construire le monde de demain et surtout une même aspiration, le bonheur au travail. Dans ce troisième épisode, nous allons voir comment se réinventer en aidant ses collaborateurs à s'émanciper. Pour répondre à cette question, j'ai eu le bonheur d'interviewer Ludovic Boutin, qui après 20 ans d'expérience dans le commerce de détail, dont plusieurs années chez Decathlon France, il participe à l'accompagnement des humains dans la transformation vers un mode de gestion libéré. Sa passion pour l'humain et les rencontres le pousse à créer sa propre agence, et aujourd'hui, il est venu s'installer au Québec et il va nous partager son expérience.
Moi, mon parcours, j'ai été pendant une vingtaine d'années dans une entreprise française distribution de sport chez Decathlon, et où j'ai fait différents métiers, donc de manager de magasin, responsable de magasin, et puis après je suis parti dans plutôt un pôle de développement de compétences au niveau de l'école de formation, et où là j'ai commencé à toucher un peu ce que c'était que la conduite de changement également, et puis après une responsabilité de filiale sur business un peu atypique qui est la carte cadeau que j'ai développée pour l'entreprise. Et puis il y a 5 ans, c'était en début 2015, il y a eu un mouvement aussi avec l'arrivée d'un nouveau leader chez Decathlon de transformer l'entreprise, en tout cas faire en sorte qu'on libère les énergies afin qu'on retrouve une agilité, on retrouve l'envie aussi de gagner, puis tout simplement anticiper les mutations que la grande distribution connaît actuellement et en prendre notre destin en main. Et j'ai été un des acteurs de cette transformation managériale depuis 4-5 ans. Et puis là, j'ai eu l'opportunité d'arriver et de m'installer au Québec en accompagnant ma conjointe, et je suis rentré dans la boutique qu'on appelle chez Brio, où j'ai un rôle de conseiller et justement d'aider aussi à travers mon expérience, mais aussi mes atouts à la fois dans le coaching, dans la facilitation de développer tout ce qui est atelier collaboratif, tourner à faire des organisations un peu plus horizontales, remettre l'humain aussi au cœur des problématiques de l'entreprise.
Comment on fait pour transformer sur une méthode plus agile une grande entreprise?
L'entreprise Decathlon, il y a à peu près presque 100 000 collaborateurs maintenant, présents dans 54 pays. C'est bien évidemment un mouvement de fond qui s'inscrit dans la durée déjà. Là, ça fait presque 5 ans que ce mouvement a été lancé, de se réinventer. La volonté pour nous a été de se dire, avant tout, c'est attaché à la puissance d'un projet, une puissance d'une vision, et qu'au regard des qualités et des aptitudes de chacun, d'avoir la volonté de s'intégrer un peu dans ce mouvement, de faire différemment. Il n'y a pas eu un grand plan organisationnel ou trop structuré de qui fait quoi, qui peut apporter aussi du trouble, mais il y a eu une volonté que c'est plutôt des initiatives locales qui se sont mises en place, et puis au fur et à mesure chacun a fait un bout de chemin, et puis petit à petit l'entreprise se transforme. Alors de temps en temps il y a, j'ai envie de dire, des nouvelles angles ou des nouvelles impulsions qui arrivent, mais ça part vraiment de la volonté locale parce que ça rejaillisse au niveau de l'entreprise entière. On croit beaucoup à puissance où chacun a cette énergie, où chacun est compétent pour le faire, et connaît bien aussi en local ses contraintes, quoi, pour pouvoir accompagner bien ses gens, pour accompagner aussi au mieux les clients.
Vous avez essayé de faire émerger les idées dans les structures locales.
Bien évidemment, pour tout ça, il y a un accompagnement qui s'est fait. Je pense à notre école de management qui a su aussi, au fur et à mesure du temps, mettre tout un dispositif d'accompagnement, de développement de compétences pour apprendre des nouveaux gestes, pour apprendre des nouvelles postures. Et au fur et à mesure, on s'est équipé. Mais ça s'est fait au fil de l'eau, au fil du chemin parcouru et des obstacles rencontrés. On ajustait nos processus, entre guillemets, de transformation. On sait bien que dans ces mouvements où on se réinvente globalement, il n'y a pas vraiment de mode d'emploi. Donc il y a un peu, alors c'est ce qu'on appelle un peu l'agilité, mais c'est vraiment ce qui se passe là.
Ouais,
c'est
essayer. Sensibiliser, en fait. Sensibiliser, former sur une façon de penser différente.
Alors, façon de penser, en tout cas, moi je crois qu'on est plutôt aussi parti sur. Alors certes, il y a une culture de l'entreprise Decathlon. C'est une boîte qui a 45-46 ans et qui a un vrai ADN fort là. Le management responsabilisant a toujours été au cœur de notre préoccupation, mais avec le temps, voilà, il s'était parfois peut-être un peu oublié, et là c'est de ramener à cela et de revenir à des choses simples et ramener à cet esprit de commerçant,
vraiment cet esprit de lien direct. Et c'est pour ça que la volonté d'avoir réduit les niveaux hiérarchiques aussi remet de la proximité entre les gens, remet de la proximité avec le client. Et puis c'est aussi surtout de se dire, on fait confiance à la personne qui est au plus près du client, qui doit prendre la décision et elle a ses propres ressources. Après, elle peut se nourrir de certaines formations, mais en elle, elle a déjà ces capacités-là. Simplement, parfois, on ne sait pas toujours l'autorisation ou se donner l'autorisation de les utiliser. Donc c'est ça, ça a été plutôt de se faire confiance là-dessus et où chacun puisse apporter sa couleur en fin de compte.
C'est vraiment donner place à un environnement qui fait qu'en sorte le commerçant ou la personne qui est sur le terrain a cet esprit d'initiative, ose créer, ose proposer.
Ouais, c'est bien ce que tu dis, et c'est d'ailleurs certainement un des rôles du leader, des équipes de ressources humaines, de comment créer cet environnement nourricier. Comment je crée cet environnement nourricier pour que chacun d'entre nous, celui qui agit, celui qui est acteur, celui qui est vraiment confronté à prendre des décisions, à agir, puisse le faire plus sainement possible, avec le droit à l'erreur également. Alors, nous, on appelle ça le droit à l'essai. Essaye, enfin, ose, mais comme on le sait tous, ça ne se décrète pas. C'est parce que les conditions me sont favorables que je vais oser faire un pas supplémentaire. Donc ça, c'est ça qui est important. Et c'est là où ça fait vraiment pivoter le rôle ou la posture de manager à leader. Et que comment on sait laisser le libre champ à nos gens pour qu'ils prennent l'initiative et d'être certainement dans beaucoup moins de contrôle, beaucoup moins de... Tout en étant conscient qu'on est dans une direction, qu'on a des balises repères, qu'on n'est pas laissé en anarchie complète. C'est que le chemin, il est tracé, la raison d'être, elle est forte, le carré de sable a été défini ensemble. Donc c'est à l'intérieur que la liberté, elle se joue dans l'initiative. Mais quand on parle de liberté, on y associe fortement une notion de responsabilité. On n'est jamais tant responsable par rapport au niveau de liberté que l'on a là. Et ça, il ne faut pas oublier ce binôme-là.
Pour toi, liberté et responsabilité vont ensemble, donc il faut faire prendre conscience de la responsabilité de son poste et qu'à la fois, le manager doit être un leader.
Moi, je pense qu'à un moment donné, on croit en tout cas, quand je dis manager à leader, manager, il y avait toute cette notion de proximité, un peu plus contrôlant, un peu plus délégation, et le leader, il est plus là pour montrer le sens, la direction, d'être garant de cet environnement nourricier, de faire en sorte que, malgré tout, les résultats sont atteints, jouer, enfin, faire en sorte que les postures d'intelligence collective se mettent en place, mais il est peut-être moins dans l'exécution, ou en tout cas le contrôle de l'exécution. Comment il laisse la place davantage aux gens pour qu'il émerge, qu'il ose davantage. Il a cet esprit de bienveillance, mais il a aussi cet esprit d'exigence en contrepartie pour que ses collaborateurs, ses employés puissent aussi progresser et acquérir au fur et à mesure de l'autonomie. Mais ça, c'est un long travail dans le sens où ça ne se décrète pas du jour au lendemain. C'est pas simplement un changement de badge. C'est vraiment comment au lieu de dire ou d'exprimer un ordre, c'est plutôt comment je pose des questions ouvertes pour que les personnes eux-mêmes aillent chercher les réponses à leurs questions. Après, toujours bon de partager son expertise parfois. Il y a un peu ces postures où, en tout cas, il y a toutes ces ficelles, ce qu'on appelle aussi des techniques, des méthodes un peu de coaching qu'on vient mettre dans notre management, qui fait que aussi on aide l'autre à s'émanciper et à progresser et à prendre peut-être plus d'estime de lui et faire en sorte qu'il agit avec un peu plus de responsabilité, un peu plus de relation d'adulte à adulte, quoi. Je pense que ça, c'est important.
Est-ce que tu penses, donc ce que tu es en train de dire, c'est que le poste de management ou un leader doit être formé?
Moi, je pense que dans ce monde qui est devenu complexe, on ne parle plus de changement, on parle de transformation. Je pense qu'une des clés, c'est vraiment un fort accompagnement du développement de compétences. Et notamment ce qu'on appelle les soft skills, où on a peu appris, où on n'a pas eu l'occasion. On a concentré fortement sur de l'expertise métier, sur de l'expertise de faire. Et là, on est confronté à autre chose. Quand on joue du collaboratif, quand on joue du participatif, on arrive avec son entièreté. Et c'est pas si simple que ça d'arriver à exposer son ressenti, à exposer ses pensées les plus profondes et puis d'être confronté aux autres. Ça vient un peu sur le champ des émotions et parfois on est un peu démuni avec cela. C'est pour ça qu'il y a tout un dispositif intéressant à développer autour de la connaissance de soi, comment j'acquiers une estime de moi pour que je puisse être en harmonie avec l'autre. En effet, c'est des nouvelles compétences que, on va dire, certes le leader doit acquérir, mais tous les employés, parce qu'il serait pas d'un bon ton si d'un côté certains leaders apprennent ce nouveau langage et puis que les employés n'en connaissent pas les codes non plus. Donc c'est bien sur les deux dimensions. En tout cas, il y a rendre accessible un nouveau, en tout cas c'est des choses qui sont connues depuis longtemps, mais apprendre à faire un feedback. Il y a de la technique un peu derrière, faire, mais surtout, c'est comment ça devient un réflexe systématique entre nous, avec de la bienveillance. Voilà, ça demande parfois un effort parce qu'on a été complètement des pratiques qui étaient absentes du monde dans lequel on travaille.
Donc apprendre à communiquer, en fait. Aujourd'hui, on est dans une communication digitale. Peut-être qu'on s'est éloigné de l'humain. Avant, on était dans quelque chose de très hiérarchique. On n'osait pas parler, on n'osait pas être vrai. Cette notion de vérité aussi, parce que le droit à l'erreur, c'est aussi un petit peu ça. C'est parfois, j'ai peur de dire que je ne suis pas compétent, que je n'y arrive pas, parce que j'ai peur de sa réaction. Donc, est-ce qu'il n'y a pas cette notion de vérité, d'oser être vrai, d'oser être transparent?
Cette notion d'authenticité que tu évoques est certainement une des clés: cohérence, transparence, authenticité. Simplement, c'est pas du jour au lendemain que ça se fait. Et l'organisation en tant que telle, en tant que collectif, elle a tendance à résister à cette nouvelle tendance-là. Faut pas oublier que, moi ça me fait penser à l'image de ces oiseaux-là qui sont dans une cage, et puis on dit, allez, on ouvre la cage, vous inquiétez pas, le champ est libre. Attention, il y a encore des gros matous qui sont à l'extérieur de la cage, et j'ose pas sortir si facilement que ça. Et je pense qu'il faut y aller vraiment par la méthode du petit pas pour que les gens acquièrent de l'assurance et cette notion d'authenticité, d'être vrai. On a tous un peu notre part de carapace. Comment j'ose enlever une partie de ma carapace, mais en même temps, en parallèle, je n'oublie pas de me sécuriser en intérieur. Parce que quand on joue comme ça, on devient plus sensible à réceptionner des émotions. Et on accepte moins aussi quelques situations qu'on acceptait autrefois. Donc quand tu parlais du jeu de la communication, comment je sais exprimer une émotion ou un ressenti, et est-ce que mon interlocuteur est équipé à la recevoir? C'est naturellement, on pense à la communication non violente ou la communication bienveillante. Et là encore, il y a vraiment un jeu, mais est-ce que moi, je sais faire, mais est-ce que l'autre personne qui va aussi être en dialogue avec moi est équipée pour recevoir? Et là, on s'aperçoit que parfois, on est tous un peu en apprentissage de ça. Donc, il y a une période de transition et c'est pas si simple.
Donc toi, tu dis que là, avec ce travail sur soi, ce travail d'équipe, ce travail de communiquer, d'apprendre à parler de nos émotions, à parler de faire des retours, d'être davantage vrai, ça invite les entreprises à avoir des formations là-dessus, et puis à peut-être avoir des facilitateurs ou des accompagnateurs, en fait. Parce que, voilà, quelqu'un qui va désamorcer un petit peu, qui va accompagner là-dessus. Est-ce que c'est un travail nécessaire pour demain, pour les entreprises, en fait?
En tout cas, moi, l'exemple que je connais, certes, j'ai toute cette expérience chez Decathlon, ou que je vis aussi chez Brio ici à Montréal, je trouve que c'est parfois intéressant de dissocier. J'ai un leader sur un projet, j'ai donc de la performance à avoir. Puis à côté de cela, je peux choisir une autre personne qui s'appelle coach, qui s'appelle parrain, marraine, peu importe, mais qui va prendre soin de moi. En tout cas, comment j'ai cet espace où je peux être réellement écouté, on parle de vraiment une écoute profonde, je peux être challengé par un questionnement bienveillant et que je puisse aller chercher mes propres ressources. Et puis à côté, j'ai cette notion de lead, de projet qui avance, de performance, mais j'aime bien cette dualité de je crée mon écosystème autour de moi. J'ai mon leader identifié, j'ai mon coach ou mon parrain marraine qui va me soutenir, et j'ai même peut-être une autre catégorie de personnes qui s'appelle des référents de compétences pour que je développe mon savoir-faire. En tout cas, chez Decathlon, on est parti dans cette notion aussi de rôle. Alors, ça n'empêche pas d'avoir un métier, mais sur une journée ou quelques heures, de jouer parfois un autre rôle de lien parce que j'ai l'aptitude d'être en posture de coach, peut-être que... Et puis, ça fait partie de moi d'être en empathie ou en soutien de mes collègues. Et quand l'entreprise, elle permet, elle autorise ça, il se passe vraiment de belles choses. Et là, on s'aperçoit qu'en fin de compte, les gens, nos employés ont des capacités à aller au-delà des tâches qu'il faut au quotidien. Et ça, pour moi, c'est une organisation qui fait que, pour répondre à ta question, oui, je pense qu'au fur et à mesure du temps, ça amène à ce dispositif de rôle. Je n'appelle pas ça des métiers, mais de rôle de coach interne. Je ne parle pas de professionnels qui sont certifiés, mais des gens qui ont été un savoir-faire de questionnement ouvert, d'écoute globale, de feedback, et puis des facilitateurs à côté également pour les moments plus collectifs qui vont amener l'intelligence collective dans des groupes, dans des équipes, à avoir une posture différente. C'est des bons éléments qui nourrissent fortement cet environnement nourricier dont on parlait. Et je crois que ce qui est bon aussi, en tout cas je le vis comme ça dans les organisations, c'est comment c'est fait aussi par des personnes de l'interne. C'est autoporté. C'est pas obligatoirement des consultants de l'extérieur qui viennent. Alors ils viennent un peu au début pour peut-être amener à toucher ces nouvelles pratiques. Mais comment, c'est encore plus puissant quand c'est fait en autoporté de l'interne, parce que les gens ils sont certes certes dans la bonne connaissance de l'environnement, mais aussi ils arrivent comme ils sont avec, ils ont la légitimité parce qu'ils font, et puis à côté de ça ils sont eux-mêmes, ils arrivent aussi avec leur force mais aussi leur vulnérabilité. Je trouve que ça apporte une dimension humaine aussi intéressante au-delà d'avoir un vrai développement de la compétence.
Donc pour toi l'entreprise elle a une vraie habilité à faire grandir des talents et créer l'environnement, travailler en équipe, de créer une culture d'entreprise, et elle a cette responsabilité là.
Elle a cette responsabilité parce que je pense en plus comme au Québec ou à Montréal où en ce moment on est aussi dans des situations de pénurie, de manœuvre, où on est aussi dans la volonté de fidéliser ces gens. Moi je pense qu'on ne peut plus faire sans, et ça passe aussi, là on parlait d'accompagnateurs, on parlait de formation, on parle aussi sur l'aménagement des lieux de travail, on parle qui facilite, qui favorise aussi ces espaces d'échange, de bienveillance, d'avoir des salles, des espaces un peu différents qui amènent à ce que les collaborateurs se sentent bien, où il y a peut-être, on casse un peu les frontières entre le temps au travail, le temps à l'extérieur, voilà, qu'on retrouve un peu des codes d'humanité qu'on aime, on est fait pour ça, on est fait pour être, on est des êtres sociaux avant tout, donc comment on favorise ça? Je pense que les entreprises ou les organisations qui ont plutôt opté pour ça, pensent qu'elles auraient du mal à revenir en arrière, savent que c'est de leur responsabilité de favoriser ça et de mettre ça en place pour le bien-être mais aussi la performance de leur entreprise.
Donc pour toi le bien-être en entreprise c'est un élément clé?
Vraiment, il y a plein de statistiques qui existent là-dessus, mais cette notion de first les employés, second les clients, c'est aussi de se dire des employés heureux font des clients heureux, des clients enchantés. C'est peut-être une phrase qu'on entend tous, mais essayons-le quoi. Mais allons jusqu'au bout du geste tout en ayant, je vous rappelle, j'aime bien ces dualités de bienveillance, exigence. On est là pour atteindre aussi des résultats, on est là pour. Mais ça peut se faire aussi en prenant soin de chacun d'entre nous quoi. En tout cas, il est prouvé qu'il y a une corrélation entre le bien-être des équipes et la performance de l'entreprise.
Donc on peut réussir en étant bienveillant.
Je pense.
Et comment tu vois l'entreprise de demain alors ?
L'entreprise de demain. Moi ça fait 3-4 ans que j'ai expérimenté une posture et que, en tout cas moi qui me convient, et je pense que c'est ça qui est intéressant dans le fameux ça commence par soi, comment on apprend à se connaître, à bien se connaître, à savoir un peu quels en sont ses propres talents, ses propres moteurs. Moi ça fait 3 ans que je suis un peu en posture d'hybride, c'est-à-dire à moitié de mon temps je suis employé, salarié, et puis l'autre partie de mon temps je suis en mode travailleur autonome, et donc je travaille pour d'autres entreprises, et ça j'y prends beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt, et je trouve qu'il y a il y a vraiment des vases communicants positifs pour les trois parties, en fin de compte pour l'entreprise dont je suis salarié, où j'ai une forme d'ouverture vers l'extérieur, où je peux aussi apporter des angles nouveaux, moi ça m'auto-forme par les expériences que je vis, puis aussi je peux aussi diffuser dans d'autres entreprises d'autres pratiques, ouvrir en tout cas sur d'autres pratiques, et puis c'est aussi le côté rassurant où je ne suis pas qu'un diseur, je suis un faiseur aussi pour les entreprises qui peuvent demander mon service. Donc en tout cas j'aime ces postures là mais tout ça pour ouvrir peut-être sur l'entreprise de demain, de se dire cette entreprise ouverte là, en quoi il y aura demain de plus en plus de gens qui seront peut-être associés au regard de leur talent, de leur force, alors dans une même entreprise, dans plusieurs services, mais pourquoi pas dans une entreprise une partie, puis dans une autre, et que là, il y a de moins en moins de frontières, mais beaucoup plus de collaboration à travers différentes organisations qui ont des talents ou des compétences un peu différentes, et je pense qu'entre la notion de salariat, la notion de travailleur autonome freelance, parfois on peut entendre un peu quelques guéguerres, mais moi, je crois que ça peut se rapprocher dans les années qui viennent, et il y aura de plus en plus de gens un peu dans ces postures-là. Après, comment va évoluer aussi, j'ai envie de dire, le dispositif législatif du droit du travail autour de tout ça. En tout cas, je le vis, moi, et je le vis très bien. Et quand je le propose, les gens, je pense, ils voient aussi un intérêt.
Donc, plus d'effectivité sur les modèles de travail.
Après, moi, je crois, alors j'entends ce mot flexibilité, mais qui peut aussi faire peur, parce que flexibilité peut aussi amener à précarité pour certains. Moi, je crois aussi, il y a des instants de la vie, il y a des moments de la vie où on a besoin d'être en sécurité, que le salariat me convient. Et puis, il y a d'autres moments où j'ai besoin peut-être d'une plus grandes libertés tout en étant bien responsable. Et là, je peux me permettre le pas de côté. Moi, je trouve que c'est pour ça qu'il y a un peu... Comment on peut jouer davantage de... Alors, j'entends le flexibilité par le sur-mesure, quoi. Et comment l'entreprise ou comment la société demain est plus flexible sur, à un moment donné, je reviens peut-être salariat, puis je repars un peu freelance ou travailleur autonome. Voilà. Et que c'est correct, quoi. Et que c'est jamais des machines en arrière, c'est que tout ça, ça fait progresser le monde. Mais je crois qu'il faut, voilà, faut pas être dogmatique en disant, ah, yeah, maintenant c'est la nouvelle méthode, il faut que tout le monde soit freelance ou non. Qu'il y a dans le respect justement des.
Tout ça soit une liberté de choix.
Ouais,
Dire, ben moi en ce moment j'ai besoin d'être salarié, j'ai besoin d'avoir une sécurité.
Par rapport à la famille, par rapport peut-être à une maison, enfin il y a plein de choses.
J'ai plus de panel. Mais tu reparlais là de responsabilité et de liberté, parce que peut-être beaucoup pensent que, ben voilà, quand je suis liberté, je fais ce que je veux. Et en quoi responsabilité rend libre?
Quand je parle de liberté, et puis associé à responsabilité, dans cette notion d'autonomie, d'adulte à adulte, il y a ce mot rendre compte. Il y a derrière, on a une sorte d'engagement qui se crée, un engagement vis-à-vis de ses employés, un engagement vis-à-vis d'un client, un engagement vis-à-vis de son leader ou de l'entreprise dans laquelle on est. Certes, j'ai une liberté d'action, j'ai une liberté de moyens, j'ai une liberté du chemin que j'emprunte, mais il y a le rendre compte. C'est pas l'anarchie, c'est en tout cas, il y a une création de valeur qui est attendue derrière. Alors, création de valeur qui peut être économique, mais qui peut être sociale, qui peut être sociétale, environnementale. Mais voilà, il y a derrière souvent un rendre compte qu'il ne faut pas négliger. Et donc, quand on fait le pas aussi de côté, d'aller un peu vers le monde un peu du freelance à côté, il y a un moment donné, on est confronté à rencontrer une partie prenante, à s'engager auprès d'eux, qui amène une forte responsabilité parce qu'on est les seuls à décider et à agir. Et là, on sent bien que, certes, il y a des choix de timing, il y a des choix de planning, il y a des choix d'organisation du travail, mais il y a un rendre compte quoi qui est derrière.
Et est-ce que le rendre compte rend vraiment libre ?
Ouais, c'est là où faut être clair avec soi-même. C'est demain, en effet, faut pas non plus être dans le faux lien de subordination qui se recrée avec un client. Et donc c'est là où chacun doit aussi connaître ses limites, doit connaître à quel niveau d'engagement, de rester dans ces dimensions d'adulte à adulte. Mais parfois, voilà, on peut très vite tomber sous la coupe d'une exigence d'un client et de se faire happer. Bon, ça fait partie un peu de l'apprentissage ou de placer au fur et à mesure son curseur. En tout cas, moi, je crois beaucoup à cette notion de l'harmonie de sa vie, quoi. J'ai pas dit équilibre. J'ai dit harmonie. Il y a un moment donné dans ma vie, j'ai peut-être envie d'être très tourné dans le professionnel, d'être à 60% très engagé, puis à côté de ça, construire une vie amicale, une vie familiale, une vie sportive, etc., associative. Et puis d'un autre côté, l'harmonie, c'est peut-être dans l'autre sens. Mais ça, c'est, j'ai envie de dire, à chacun de trouver ça. Mais moi, en tout cas, c'est ce que j'essaye de cultiver depuis 3-4 ans et de chercher cette harmonie. Pas l'équilibre exact. La vie, elle est pas faite 50-50, quoi. Mais en tout cas, que ça reste harmonieux pour moi, quoi. Donc,
une vraie invitation à savoir qu'est-ce qu'on a envie en ce moment et quel est mon focus ou en tout cas ma priorité ou où est-ce que je veux mettre mon énergie. Puis savoir se connaître, comme tu l'as très bien dit, pour pouvoir mieux travailler, à savoir positionner ses limites.
Déjà, bien se connaître, c'est essentiel. Bien comprendre un peu ses moteurs, son envie, qu'est-ce qui fait du sens à ma vie, dans mon utilité. Moi, j'utilise souvent ça. C'est quoi mon utilité ? Il y a des fois, je me questionne parce que voilà, il y a perpétuellement des moments parfois plus inconfortables que d'autres, mais de revenir à cette racine-là pour après, avec une autre partie, d'être beaucoup plus en relation, de pouvoir en tout cas exprimer exprimer sa demande. Souvent, dans le dialogue, quand tu parlais de dialogue avec l'autre, c'est qu'il y a tellement de non-dits entre nous, on n'ose pas toujours exprimer la vraie demande, alors que parfois, quand elle est bien exprimée et entendable par l'autre, on arrive à toujours trouver un bout de chemin à faire en sorte et qui fait que ça favorise le travailler ensemble, le vivre ensemble. Mais chacun, voilà, il y a comme si on n'osait pas dévoiler certaines choses et c'est des points de blocage, quoi.
Mais c'est vrai qu'on est souvent dans la peur et c'est effectivement peut-être l'organisation peut permettre ça, de créer un climat de confiance qui fait que ça amène à cette transparence et cette envie d'être vrai.
Je l'entends, mais l'organisation en tant que telle a aussi son travail à faire parce que l'organisation, elle a ses peurs aussi. Individuellement, les gens sont parfois prêts à jouer le jeu et puis pourtant le collectif ne le joue pas. Comme si l'organisation qui a qui a eu un mode de fonctionnement par le passé qui la rendait plus rassurant. Et puis de là à aller vers une autre façon de faire, parfois l'organisation, il faut fortement la travailler. Et c'est pour ça que quand on parle de ces transformations du travail ou de la façon de collaborer, ça se travaille vraiment à tous les niveaux, quoi.
Est-ce que tu trouves que des fois, les individus sont quand même plus prêts que l'organisation ?
Ouais, parfois. Je rencontre des gens qui ont vraiment la volonté, quoi. Là, j'étais ce matin encore avec un client Orange et ils viennent de faire un super séminaire la semaine dernière et en fin de compte, ils se posaient tellement de questions, mais quand ils ont vu l'énergie que leurs collaborateurs avaient, mais en fin de compte, c'est juste les peurs de l'organisation qui faisaient qu'ils n'osaient pas mais y aller ou de se dire est-ce qu'on va se lancer dans cette nouvelle façon de faire ? Mais non, les gens sont prêts. Mais parfois, l'organisation, elle est tellement lourde puis elle résiste. Mais ce qui est difficile, c'est que cette organisation, c'est un peu invisible. Il y a une personnalité de groupe là qui n'est pas visible d'entrée de jeu et c'est celle-là qu'il faut évoluer. D'ailleurs, c'est pour ça que pour moi, en tout cas, quand on rentre dans des grands chantiers de transformation, ça vient toucher la culture de l'entreprise. Certes, avec respect de son ADN, d'où elle vient, sa racine, mais ça vient revisiter en tout cas la culture de l'entreprise.
C'est ça qui fait peur, toucher à quelque chose au noyau.
Ouais, au noyau là. Mais en tout cas, j'ai vraiment le sentiment, dans les expériences que je vis, que ça vient bousculer ça. Et ça, waouh, ça chahute. Ça chahute.
Ah, donc c'est intéressant en fait. Finalement, la peur, on la met sur les individus, mais il n'y a pas que. Pour conclure un peu ce podcast, est-ce que tu as un mantra, une citation ou quelque chose, un mot ou une invitation à dire aux recruteurs, aux employeurs, aux salariés?
Moi, en tout cas, je pars du principe qu'à un moment donné, il n'y a aucune raison que dans le monde, dans l'entreprise, où on passe quand même énormément de temps, que ça ne puisse pas être présent. Mais pour cela, il faut que cet environnement soit propice, soit accueillant, soit engageant pour que chacun puisse justement mettre au service de soi et des autres, du collectif et de l'entreprise, toutes ces belles ressources, toutes ces choses qui demandent qu'à transparaître, quoi. Donc moi, en tout cas, c'est mon côté certainement optimiste, hein, mais je crois à ça et je pense que demain, si les entreprises qui feront en sorte que ces capacités de chacun puissent s'exprimer dans la mesure du cadre du jeu attendu de l'entreprise, je pense qu'elles iront face à de belles surprises.
Donc c'est vraiment une invitation à créer un environnement sain pour avoir cette envie de se développer personnellement, mais cette envie de grandir ensemble pour un projet collectif.
Oui, ouais. Et puis de faire vivre la confiance entre les personnes, de faire vivre le talent, de faire vivre toute la richesse que chacun a au service d'un projet, au service d'un objectif, au service d'une raison d'être forte. Tout ça, ça fait jouer avec de l'intelligence collective quelque chose de beau, quoi.
Mais super, merci pour ton temps.
Je t'en prie.
Ce beau témoignage. Merci à vous pour votre écoute et surtout un grand merci à Ludovic Boutin pour son partage. Merci à Surplace Média et plus particulièrement à Julie Lévy et Ted Strauss pour la publication et la distribution de cet épisode. Quant à nous, on se retrouve très rapidement pour des nouveaux partages sur le concept du bonheur au travail et vous pouvez nous retrouver sur Internet et sur toutes les plateformes de podcast. Et bien sûr, si vous avez des réflexions, des compliments ou des remarques ou vous voulez nous contacter, vous êtes les bienvenus. Bye bye.